France Culture.
La conversation scientifique par Étienne Klein. Aujourd'hui, peut-on faire entendre de la physique à la radio ? Lorsque nous pensons aux sciences physiques, notre cerveau imagine aussitôt des équations, des formules magiques ou possiblement traumatisantes, des schémas, des expériences, des graphiques, des ordinateurs, des lasers, des appareils de toutes sortes. Autrement dit, notre cerveau voit des choses. Dès lors, une question se pose en forme de défi. Serait-il possible de faire entendre un peu, voire beaucoup de physique sans la faire voir ? C'est-à-dire en se servant seulement de sons et de phrases produits dans un studio de radio. Par exemple, en faisant chanter des vers, hurler des ballons, rebondir des balles, rouler des pièces de monnaie. Ce pari paraît fort risqué et même impossible, sauf si l'on choisit les invités dans la catégorie des touche-à-tout furieusement inventifs. La bonne nouvelle, c'est que j'en ai trouvé une paire qui font l'affaire, une paire de physiciens, tous deux professeurs de physique à Sorbonne Université. Bonjour Jean-Michel Courty.
Bonjour.
Bonjour Édouard Kirlik.
Bonjour.
Alors vous êtes physicien, je l'ai dit, et vous écrivez ensemble la chronique « Idées de physique » de la revue Pour la science. Vous, Jean-Michel Courty, vous avez une chaîne YouTube qui s'intitule « Merci la physique ».
Oui.
Dont l'anagramme est « Miracle physique ».
Ah bah voilà, c'est exactement ça.
Et je sais pas très bien comment vous êtes rencontrés tous les deux, Jean-Michel Courty.
Bah la rencontre, on était tous les deux élèves dans la même école, et on se connaissait... Juste comme ça, et puis après, pour la chronique, en fait, ça a commencé avec Roland Lehoucq, qui est en fait aussi un ami, qui crée au siècle dernier, en fait, en mai 99, la chronique Idées de physique dans la revue Pour la science. Il commence à faire des chroniques tout seul, et puis il fait quelques chroniques avec des collègues astrophysiciens. Moi, je vois ça, ça m'intéresse la vulgarisation. Je lui dis, bah, tu voudrais pas qu'on fasse une chronique ensemble? Donc, on fait une chronique, puis ça se passe bien. Je lui dis, bon, on pourrait pas en faire une deuxième? Bah oui, alors on en fait une deuxième. Et puis, comme en fait, c'est un gros boulot de faire des chroniques tous les mois, il me propose assez rapidement de faire la chronique à deux. Et en fait, ça commence en janvier 2001, où on va faire des chroniques tous les deux. Édouard nous dit, bah tiens, c'est sympa vos chroniques, on pourrait pas en faire une ensemble. Donc on en fait une à trois sur le coup de fouet, le banc du coup de fouet. Déjà du son, voilà. Et puis, en fait, assez rapidement, Roland a envie vraiment de partir sur science et science-fiction, parce que c'est vraiment son dada. Et il me dit, écoute, bon, moi j'arrêterai bien la chronique, est-ce que tu veux bien la reprendre? Je me dis, pas possible de reprendre tout seul, je propose à Édouard, qui dit « Ok, banco ». Et on commence en novembre 2001 à faire ses chroniques. Et depuis, bah, tous les mois, une chronique. Et là, pour moi, la prochaine qui va sortir, ça va être la 300e exactement au
compteur. Elle parle de quoi, cette prochaine chronique, Édouard Kirlik?
Donc la prochaine chronique concernera le ballottement, c'est-à-dire ces mouvements de fluide qu'on a par exemple dans notre tasse de café, lorsque l'on marche et qu'il a malheureusement l'envie de sortir de la tasse. Et la suivante, je laisse la parole à Jean-Michel.
À la suivante, ce sera sur les bits quantiques électriques, en fait, en rapport avec le prix Nobel de Michel Dévoré.
Qui sera notre invité dans quelques
exactement.
Semaines.
Exactement. Donc là, l'idée, c'est dans l'esprit de la chronique, ces bits quantiques électroniques et ces systèmes quantiques macroscopiques, comment en pratique, on les réalise, à quoi ça ressemble physiquement.
Vous êtes tous les deux la superposition quantique de physiciens théoriciens et de sacrés bricoleurs. D'habitude, les invités de cette émission, ils arrivent les mains dans les poches. Vous, il y a tout un barda, là, il y a des ballons, il y a un seau d'eau, il y a des verres, il y a toutes sortes d'instruments. Qu'est-ce qui vous a fait passer de l'idée d'écrire des chroniques, on a compris d'où cette idée est venue, à l'idée de faire des spectacles qui montrent la physique? Édouard Kirlik.
Il se trouve que les chroniques ont fait l'objet de publications sous forme de livres, de recueils, très régulièrement. Et on voulait, disons... faire la publicité de ses livres. Et puisqu'on faisait beaucoup de physique au quotidien dans les chroniques, on s'est dit, autant l'illustrer en direct en reproduisant les expériences qui étaient suggérées ou mentionnées dans les chroniques. Et on s'est rendu compte que, d'abord, la physique, ça marche. C'est-à-dire, ce n'est pas...
Vous n'étiez pas au courant ?
Non, mais parfois, les gens peuvent en douter.
Ouais, quand on était à l'école, on nous apprenait les lois, puis on nous disait, oui, mais dans la réalité, c'est plus compliqué. En gros, ça marche bien dans les exercices, ça marche bien dans les salles de TP parce qu'on a le matériel et qu'on fait.
Si on néglige certains phénomènes.
Voilà. Et alors, en fait, le point, c'est qu'on a l'impression que ces phénomènes qu'on néglige, ça va tout casser. Et ce dont on s'est rendu compte en faisant les chroniques, c'est qu'en fait, si on néglige ces phénomènes, on a déjà 10%. Et 10%, c'est vachement bien. Alors effectivement, si on veut 1% au mieux, là, faut travailler, c'est plus compliqué. Mais donc, on a décidé de jeter le « c'est plus compliqué ».
Et c'est en même temps que les physiciens que vous êtes finissent par prendre conscience que leur discipline a une certaine efficacité opératoire.
Exactement.
Et ce qui fait que petit à petit, dans nos conférences, on avait évidemment encore quelques diapositives, mais de plus en plus, on s'est consacré à la mise en scène d'expériences bien choisies, parfois spectaculaires, sur lesquelles on parlait de physique. Et puis a lieu la Covid, et je laisse la parole à Jean-Michel.
La Covid.
Eh oui, donc la Covid, en fait, juste au début du confinement, il y a une amie qui est professeure des écoles qui me dit, écoute Jean-Michel, qu'est-ce que t'as pourrais pas quelques petites expériences que je pourrais faire à mes élèves chez eux à la maison? Je commence à dire, ben oui, et puis je mourais d'envie de faire du YouTube, j'avais jamais eu le temps. J'ai la chance d'avoir une femme qui fait du théâtre d'impro. Parce que faire du YouTube en face caméra, à mon âge, avec ma tête, salut les potes, machin, ceci, je le sentais pas vraiment.
Qu'est-ce qu'elle a, votre tête?
Bah, une tête de prof, mal, plus de 50 ans, barbu, trop sérieux, quoi. Donc voilà, donc en fait, on se dit, on se lance, et en fait, dès le troisième jour, on fait une première vidéo sur le yaourtophone. Ça dure 2 minutes 30, c'est filmé avec un smartphone par notre fils aîné, pas de montage, pas de machin, on met en ligne, et puis en fait, on est très contents. Et c'était parti pour Merci la Physique, tous les jours pendant
le confinement. C'est le nom de votre chaîne YouTube, Jean-Michel Courty.
Voilà.
Merci la Physique.
Merci la Physique. Et donc, pendant le confinement, une vidéo par jour, sauf le week-end, avec toutes les expériences qu'on peut faire à la maison, avec le matériel de la maison.
Bon, je l'ai dit, le studio est encombré, là.
Oui,
donc,
parce que...
Qu'est-ce que vous allez faire?
Donc, on va faire des expériences sonores, à défaut d'être trébuchantes. Alors, pourquoi on a fait ce choix? Peut-être peut-on citer notre dernier travail qui est fait avec notre collègue chimiste de Sorbonne Université, Fabrice Chemla, qui est professeur de chimie, et qui est venu un jour écouter nos conférences telles qu'on les faisait, nos conférences expérimentales, et il s'est dit que parfois quand même ça manquait un peu de rythme, on ne savait pas qui faisait quoi dans ce genre de duo face au public, et il nous a incité à les scénariser beaucoup plus. Et ben c'est ce que l'on a fait, on a travaillé avec lui pendant 2 ans, pour monter ce que nous, on appelle une conférence spectacle, qui s'intitule « Des bruits et des sons », que nous donnons maintenant depuis presque 2 ans. Et donc, ça parle de bruit, ça parle de son, et on a trouvé que ça était parfaitement adapté à une émission de radio.
Vous allez la donner, cette conférence, à Saint-Malo le 16 avril, au Petit Théâtre, j'ai vu ça.
Effectivement, oui, donc on est
entre autres invité
par l'Espace des sciences de Rennes, hein, qui nous invite très régulièrement.
Et en fait, on a déjà donné à Rennes, et la conférence est accessible en ligne, quand on était à Rennes.
Alors, qu'est-ce que ça donne, messieurs?
Alors, pour introduire un petit peu le sujet, on va faire appel à une chronique qui est assez ancienne, qui date de 2015, où on a découvert avec stupéfaction, en réalité, qu'il y avait un monument en Chine, qui est un monument de la victoire. En gros, c'est une espèce d'escalier géant avec une immense statue tout au bout. Et ce qui se passait, c'est que lorsqu'il tirait un feu d'artifice, on entendait les éclats des explosions. Juste après, sonnait une espèce de mélodie, comme si elle était jouée à la trompette.
Alors qu'il n'y avait pas de trompette.
Et la raison en est que l'escalier est constitué de 6 volets de marche. Chacune de ces marches renvoie une partie du son de l'explosion. Et puisque le son est répété très très rapidement, notre cerveau, en réalité, n'entend plus le motif de l'explosion, il entend la répétition du motif sonore.
Il entend une note.
Et ça fait une note. Voilà.
Donc une note, c'est un son qui se répète rapidement.
Exactement. Et en fait, c'est pas du tout, comment dire, la manière dont les physiciens abordent ce genre de notion. On est très dans le signal sinusoïdal, parfait, etc. Là, se rendre compte qu'un bruit pouvait se transformer en note juste en le répétant, en fait, ça a été quelque chose qui nous a
stupéfait. Donc, si je comprends bien, avec un escalier et des feux d'artifice, on peut faire de la musique.
Ouais. Voilà. Et ça a aussi évoqué, en fait, le travail d'un physicien toulousain qui a fait toute la physique en 42 tomes au début vers les années 1900, Henri Boisse. Et en fait, donc, il a 4 tomes d'acoustique qui continuent à faire référence et dedans, il insiste beaucoup sur cette dimension temporelle de la note. Que la note, c'est la répétition d'un motif. Et il donne comme exemple le son des insectes. Par exemple, de certaines sauterelles qui, en frottant leurs pattes contre une sorte de râpe qu'elles ont sur le corps, réussissent à produire des notes uniquement par la répétition des clics. Donc, Edouard.
Oui, alors.
Ah, vous avez une râpe.
Bah oui, j'ai une râpe à défaut d'avoir de sauterelles. Donc, j'ai une râpe à parmesan. Donc, c'est une râpe qui est un peu longue. Hein, elle fait à peu près.
Un centimètre.
Une vingtaine de centimètres. Donc, il y a.
Et vous avez un double décimètre.
J'ai un double décimètre pour
frotter.
Voilà. Et là, il y a 45, je les ai comptés avant de venir. Il y a 45 petites râpes tout régulièrement espacées. Et ce que je vais faire, c'est que je vais frotter la râpe avec le double décimètre. D'abord lentement. Puis plus rapidement. Encore plus rapidement, si j'y arrive.
C'est de plus en plus aigu.
Oui. On sent qu'il y a une espèce de coloration qui change. Alors là, le bruit est très présent. Mais il n'empêche, au fur et à mesure que je fais glisser de plus en plus rapidement la règle sur la râpe, on a l'impression qu'on va dans les aigus. Pourquoi ? Parce que je passe d'un motif à l'autre de plus en plus rapidement. Donc, la répétition.
Plus la répétition est rapide et plus on a l'impression que c'est une note.
Exactement. Mais on en est quand même assez loin. Ça n'a pas de qualité musicale.
C'est une démonstration qui est convaincante. Mais pas tout à fait éclairante, parce que la différence de fréquence entre les différents rythmes que vous avez imposés est pas tout à fait nette. Voilà. Est-ce qu'il y a moyen de faire mieux,
monsieur ? Alors oui, il y a moyen de faire mieux, et donc on propose de faire un petit extrait de notre conférence, en fait, puisque les dialogues
ont été en direct.
Donc comme les acteurs qui viennent faire des extraits de leurs pièces de théâtre, comme notre conférence, le texte a été écrit et qu'on l'a appris, et ben on va faire un petit morceau.
Bon, je me tais, je fais partie de la salle, je suis spectateur.
Oui, alors il faut juste qu'on se remette dans l'ambiance. Allez, c'est parti. En fait, je comprends pas. Tout à l'heure, on a entendu le son d'un claque. Cela faisait un bruit sec. Mais lorsque j'entends une mouche voler, ou un moustique, ce sont leurs ailes qui claquent ?
Bien sûr que non. Elles sont bien trop petites et trop fines pour qu'on puisse les entendre claquer. Ce qu'on entend, c'est leur battement.
Tu veux dire que si je bats des bras, je vais faire du bruit ? Ah non, ça ne marche pas. Il n'y a vraiment aucun bruit.
Mais tu ne vas pas assez vite. Arrête, tu vas te faire mal. C'est pas comme ça qu'on va entendre quelque chose. Je te propose plutôt d'utiliser ce ballon de baudruche dans lequel il y a un écrou comme celui-là. Je vais faire rouler l'écrou à l'intérieur du ballon. Écoute.
Waouh ! Génial ! Moi aussi je veux le faire. Mais je vais prendre une pièce de 5 centimes, c'est tout ce que j'ai. Alors là on peut voir que la pièce roule bien dans le ballon, mais on n'entend rien. Pourquoi ?
Mais c'est normal, mon écrou et ta rondelle n'ont pas la même forme. Mon écrou a des arêtes. Quand l'écrou roule sur le ballon, il bascule sur son arête, et quand il vient frapper la surface du ballon, il fait un clac.
D'accord, moi aussi je vais prendre un écrou, mais plus petit. Ah oui, avec un écrou ça marche, mais je n'entends pas les claques contre la paroi.
C'est normal, quand l'écrou roule à la surface du ballon, il fait plusieurs centaines de claques par seconde. Les claques sont bien trop proches les uns des autres pour que le cerveau puisse les entendre distinctement. Ce que le cerveau entend, c'est autre chose qui ne dépend que de la vitesse de répétition des claques.
À partir de quelle vitesse de répétition le cerveau entend-il autre chose ?
À partir d'une dizaine de répétitions par seconde, le cerveau entend autre chose. Il entend une note. Et plus la répétition est rapide, plus la note est aiguë. Écoute ce qui se passe quand je fais tourner l'écrou plus vite. Tu entends ? J'en tiens une autre note, plus aiguë. Et j'ai ici un autre ballon avec un écrou tout petit. Écoute ce que cela donne. Une autre note, encore plus aiguë.
Ah oui, on entend la mouche, le moustique et le bourdon. C'est à cause de la rapidité du battement de leurs ailes qu'on entend une note. Le bourdon est gros, il bat des ailes lentement et le son est grave. La mouche bat plus vite des ailes et le son est plus aigu. Le moustique bat des ailes encore plus vite et donne ce son caractéristique si désagréable à nos oreilles. Ah. Voilà.
Merci, c'était donc un extrait de votre spectacle qu'on peut voir en effet sur Internet. Mais là, on a l'impression que c'est Jean-Michel Courty qui fait le prof et Édouard Kierlik qui fait l'étudiant qui essaie de comprendre. C'est toujours comme ça, la répartition des rôles ?
Dans le spectacle, on alterne régulièrement. Mais en revanche, le fait qu'on ait des rôles distincts sur certaines séquences, c'est voulu. C'est le travail qu'on a mené avec Fabrice pour qu'on puisse vraiment comprendre la contribution de chacun. Donc là, Jean-Michel est le sachant, comme on dirait aujourd'hui. Et moi, je suis...
L'apprenant,
le curieux, qui a envie de comprendre, mais qui ne sait pas. Et là, il vient de m'expliquer quelque chose...
Voilà, l'honnête homme qui ne sait pas, mais qui comprend tout de suite. Voilà.
Alors, qu'est-ce qu'il y a d'autre dans votre valise, là ?
Eh bien, après cette séquence, en fait, on utilise une sirène à main, qui est basée sur le même principe. Alors là... Vous le voyez en direct, une sirène à main. Il y a un couvercle à cette sirène à main. Je suis en train de le démonter. Voilà. Vous voyez, il y a un couvercle.
Que vous avez dévissé.
Que j'ai dévissé. Et il y a des trous sur le côté. Mm-hmm. Et à l'intérieur de ma sirène, il y a une pièce qui tourne. Avec des pales. Hein. Et vous comprenez le principe. Quand je fais tourner la manivelle, les pales sont entraînées dans le mouvement. Et ça va permettre d'accélérer l'air et de le faire circuler.
Mais là, ça ne fait pas de bruit.
Non, effectivement, si je ne remets pas le couvercle, vous devez entendre une espèce de bruit de ventilateur. Hein. Mmh. En gros, j'ai réalisé un petit ventilateur, pas très efficace. Donc je m'arrête, donc je vais remettre le couvercle et on va découvrir ce qui va se passer. Donc, en gros, comment ça fonctionne ?
On remet le couvercle.
Là, il y a un trou devant, c'est par là que l'air va être aspiré. Et l'air va ressortir sur les côtés, par les trous. Mais regardez la petite astuce. Les trous peuvent s'ouvrir et se fermer au fur et à mesure du mouvement de la pale. Donc, je vais créer un mouvement d'air qui va être interrompu lorsque les trous seront fermés et rétabli quand les trous seront ouverts.
Vous allez hacher l'air.
Exactement. Donc, un écoulement dans lequel vraiment il y a rien d'autre que ça. Voyons les conséquences. Donc d'abord, je vais très très lentement. Alors je dis très lentement parce qu'il y a un effet, je crois c'est 25. Hein,
entre les multiplicateurs entre la manivelle et le rotor.
Donc ça veut dire que si je fais...
Pour la vitesse de rotation.
Pour la vitesse de rotation, oui.
Et sachant qu'il y a 8 fenêtres. Donc si on fait bien le calcul, si je fais un tour par seconde, en gros, j'ouvre et je ferme les fenêtres 200 fois par seconde. Donc là, on entend une espèce de vague bruit. Et maintenant, je tourne plus vite la manivelle. Donc, c'est un...
Là, vous avez enclenché la procédure d'évacuation de tout Radio France.
Oui. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ? Eh bien, au fur et à mesure que je tourne de plus en plus vite, eh bien, je hache de plus en plus vite l'air. Et ça suffit pour, effectivement, qu'on entende une espèce de note.
Mais c'est à la fois plus puissant et plus aigu.
Effectivement, c'est un des défauts de la sirène. Enfin, ce n'est pas un vrai défaut, mais c'est plus je tourne vite, plus je provoque un effet aspirant. Hein. C'est une pompe centrifuge, en réalité. Hein. Donc, la force centrifuge est de plus en plus élevée, plus l'écoulement d'air est puissant, et donc plus ça change aussi l'intensité sonore. Donc, je change à la fois la fréquence, le nombre de répétitions par seconde et l'intensité. Et ça fait une note qui est de plus en plus aiguë et de plus en plus forte.
Mais pourquoi est-ce que les sirènes s'appellent des sirènes ?
Alors,
voit pas trop le rapport, là.
Alors, on voit pas trop le rapport, en fait, parce que la sirène a été inventée par Monsieur Cagnard-Latour en 1819. Alors, vous allez me dire, pourquoi Monsieur Cagnard-Latour a inventé ça ? Ben, à l'époque, les gens comprennent que le son, c'est un phénomène vibratoire, et donc les physiciens s'interrogent sur la manière de mesurer la fréquence de ces vibrations. Et donc, il va falloir, on n'a pas d'oscilloscope, il n'y a pas moyen de ralentir, donc il va falloir réussir à relier ces fréquences très rapides à quelque chose de macroscopique. Donc, ce que fait Monsieur Cagnard-Latour, c'est que il va faire un petit dispositif. Alors, le premier dispositif, c'est j'ai une pièce métallique avec des trous c'est plat, et puis il y a des trous à la surface. Et ils sont en biais. Ce qui fait que quand l'air sort, il sort de travers. Et par-dessus, je vais mettre un rotor qui peut tourner autour de son axe. Quand les trous du rotor sont en face de ces trous-là, l'air arrive en biais, ça fait tourner. Et comme j'ai les trous en face des trous, comme dans le dispositif d'Edouard, ça passe pas.
Donc là encore, il y a un processus qui hache l'air.
Ça hache l'air, c'est exactement le même truc. Alors là, c'est un dispositif où on contrôle pas la vitesse comme avec Edouard avec la manivelle. C'est un peu, là j'en ai une qui fonctionne sur le même modèle, c'est une sirène sifflée. Voilà, alors en fait c'est un petit truc dans lequel je souffle. Le fait de souffler, ça fait tourner, et en même temps il y a l'air qui est haché. Alors comment va faire Canir la tour? C'est qu'il va relier le rotor avec une petite tige qui, en tournant, va faire tourner un contour. Et comme ça, il peut mesurer le nombre de tours par seconde. Connaissant le nombre de trous, il en déduit la fréquence du son.
En fait, c'est un appareil de mesure.
C'est exactement un appareil de mesure. Et ce que découvre Monsieur Canir la tour, c'est que son dispositif fonctionne aussi dans l'eau. C'est-à-dire que quand il le fait marcher dans l'eau, ça fait aussi des sons.
Pas les mêmes.
Pas les mêmes, mais si les mêmes fréquences. En fait, moins puissantes, mais toujours les mêmes fréquences, puisque la seule chose qui va compter, c'est la vitesse de rotation. Et bien, quelque chose qui émet des sons dans l'eau, il a décidé d'appeler ça une sirène. Voilà l'origine du nom. C'est lui qui l'a baptisé à l'époque, dès le début de son...
C'est très romantique.
De son invention, tout à fait. Alors, le point, c'est que c'était pas forcément très efficace pour mesurer, parce que, comme il y avait... la vitesse n'était pas contrôlée. Donc, en fait, en fonction de l'air comprimé, ça allait plus ou moins vite. Et donc, il y a un autre physicien qui a inventé un dispositif beaucoup plus efficace. Donc, en fait, c'est des petits trous avec des petites dents. C'est comme avec les cartes qu'on met sur les roues de vélo, sauf que là, il y a des petits dents, et on tourne avec une manivelle. Et donc, en tournant avec la manivelle, on sait exactement à quelle vitesse ça va. C'est Savard, de Buis Savard. C'est les roues de Savard. Voilà.
Le Savard de Buis Savard.
C'est le Savard de Buis Savard, en fait, qui a inventé ces roues. Et ce qu'il mettait, c'est qu'en plus, il mettait plusieurs roues côte à côte qui te permettaient de faire les notes de la gamme. Et donc, là, en comptant le nombre de tours à la manivelle, on avait très précisément la hauteur du son.
Alors, soit dit en passant, ça n'a rien à voir avec ce qu'il vient de raconter, ou presque. mais on peut en profiter pour signaler qu'il y a des routes sonores qui sont basées sur ce principe-là.
Bah, sur les autoroutes, il y a des bandes...
Alors, les bandes, oui, mais elles ne créent pas de mélodie. Avec ce que l'on vient de dire, si vous espacez de façon astucieuse sur la route des petites bandes,
oui,
et que vous changez l'espacement entre deux bandes successives, eh bien, vous allez produire, en roulant avec votre roue dessus... des sons différents. Et vous pouvez donc avoir une mélodie juste en roulant sur ces routes.
À la bonne vitesse
ou... Oui. Alors, la bonne vitesse, je ne crois pas, parce que j'ai juste l'impression que ça change, la tonalité.
Mais ça existe, ça?
Oui, des routes, oui, il y en a deux ou trois dans le monde comme ça.
Des routes chantantes.
Des routes chantantes, oui.
Il y a en Hongrie, en Danemark, aux États-Unis.
Mais on n'entend pas la même chose selon qu'on est dans la voiture ou selon qu'on regarde la voiture passer, j'imagine.
Oula.
Oh là, avec les vitesses, l'effet Doppler, il n'est pas...
Il n'y a pas d'effet Doppler ?
Non. En revanche, quand même, comme c'est sur une certaine longueur, quand on est dans la voiture, on entend le son tout le temps. Voilà. Juste pour compléter, les sirènes qu'on entend d'alarme, c'est exactement sur ce même principe. C'est-à-dire que ce n'est pas une manivelle qui fait tourner, c'est un moteur. Mais c'est exactement le même dispositif avec les pales à l'intérieur, les petites fenêtres. Et on rajoute un cône porte-voix en sortie des trous. Mais c'est rien de plus. Donc c'est ça qui est assez phénoménal.
C'est un dispositif dans lequel Edouard Kirlik est remplacé par un moteur.
Exactement. Et donc ce qui est quand même assez phénoménal, c'est la puissance des sons qu'on arrive à voir avec un dispositif dans lequel il n'y a rien qui vibre, il n'y a rien machin. Ça ne peut pas tomber en panne en fait. Parce qu'en fait c'est super robuste, c'est puissant. Donc c'est pour ça que c'est toujours ce dispositif qui est encore utilisé aujourd'hui.
Et pour rebondir sur ce que vient de dire Jean-Michel, un point important nous, en tant que physicien, c'est de comprendre que la note n'est pas liée à une vibration. C'est juste lié à une répétition. Donc quelque chose qui change par rapport...
Fréquence.
Oui, par rapport à ce que l'on va dire sur les cordes vibrantes ou tous les dispositifs, hein, ou sur les xylophones. Enfin, tous les sons que l'on produit la plupart du temps avec des instruments de musique, où effectivement, ce que l'on raconte, c'est qu'on a fait vibrer quelque chose.
Mais dans vos spectacles, enfin dans vos conférences spectacles, dont on a eu un bref échantillon tout à l'heure, j'imagine que ce que vous montrez provoque dans le public... de l'étonnement, enfin des réactions. Est-ce que vous avez l'impression que les gens découvrent un nouveau monde?
Alors,
oui,
il y a plusieurs moments, alors pas toujours les mêmes d'ailleurs, ça dépend un petit peu des publics, où effectivement ils sont étonnés, on le sent.
Bah déjà le début.
Oui, l'expérience.
Le début, on dit que le son, c'est des vibrations. Et pour le montrer, on prend un diapason, on frappe le diapason et on trempe, pendant qu'il vibre, on trempe les branches dans l'eau, un tout petit peu. Et ça fait éclabousser de manière phénoménale. Donc là, tout d'un coup, on visualise les vibrations. Là, on a les premiers O et A. On passe dans la salle.
Oui, je dirais plutôt pour le jeune public.
Voilà.
Il adore ça, le diapason dans l'eau, de l'eau partout.
Voilà. Et la deuxième expérience, on a un deuxième diapason. Contre le diapason, il y a une balle de ping-pong qui est tenue par une ficelle. Et puis, on vient frapper à distance un premier diapason. Les vibrations du premier diapason se transmettent à travers l'air vers le second, font vibrer les branches, et il y a la balle de ping-pong qui se met à rebondir. Donc là, il y a vraiment un sorte de sentiment magique où tout d'un coup, en tapant sur un diapason, je fais rebondir à distance une balle de ping-pong.
Et d'autres moments qui fonctionnent plutôt bien, me semble-t-il, c'est qu'on a à la fois une espèce de ressort géant, un slinky, c'est des ressorts colorés que l'on trouve très facilement. Et ce que l'on fait, c'est qu'on fait un ébranlement sur ce ressort et on voit cet ébranlement
se propager.
Oui, le long du ressort et revenir. Et on fait la même chose aussi avec une corde élastique, mais sur des distances qui sont de l'ordre de plus de 10 mètres. Et le fait de le voir, c'est-à-dire de se rendre compte qu'effectivement, sur ces objets-là, on a des ondes que l'on voit avancer comme une ola, mais sans qu'on ait un déplacement massif de matière, je crois que
Ça fait voir la physique.
Oui, ça fait voir la physique. Oui.
Et c'est ce qu'ils nous disent, les gens nous disent après, en fait, on va faire le même phénomène avec du son. Et les gens nous disent, on a l'impression de voir le son. Parce qu'en fait, on leur a proposé des images mentales à se représenter.
Oui, parce que parler de la compression de l'air, des couches d'air qui se propagent de proche en proche et qui vont du diapason à l'oreille, c'est bien beau. Mais de le visualiser grâce à un ressort,
c'est mieux.
Grâce à une ola, puisque il se trouve que dans la conférence spectacle, on fait faire une ola à nos spectateurs, eh bien, on comprend beaucoup de choses avec ça.
Alors, vous êtes venus, Édouard Kélik et Jean-Michel Courtier, avec des verres à pied, plusieurs. Par contre, je n'ai pas vu de bouteille de vin, donc je me demande s'il n'y a pas un oubli de votre part, à moins que votre intention soit complètement différente de celle que j'avais espérée.
D'abord, on fonctionne à l'eau, c'est peut-être plus raisonnable. Et ensuite, oui, vous avez raison, on n'est pas là pour
s'amuser,
boire, mais pour faire chanter les verres. Donc, je vais essayer, moi. Alors,
vous avez dans une main un verre à pied d'assez grand volume.
Ah oui, c'est un beau verre à pied.
Un seau d'eau bleu, je précise, rempli d'eau.
Donc voilà, parce que j'ai réussi à me pincer avec la sirène. Alors, donc je fais passer. Alors j'ai mouillé mon doigt.
Et vous le faites glisser sur le bord du verre.
Et vous voyez, le verre se met immédiatement à chanter.
Ben moi je le vois, mais les gens l'entendent plutôt.
Oui, effectivement. Donc c'est assez aisé, il faut absolument tremper le doigt et vraiment y aller franchement.
Moi quand j'ai essayé l'autre jour, en fait c'était juste un peu humide, ça marchait pas. Et si ça marche pas, au lieu d'appuyer plus fort, machin, on mouille. Et puis à un moment donné, ça accroche. Faut que le verre soit bien proche.
Avec la salive, ça marche pas.
Ah non.
C'est pas suffisant.
Et puis il faut vraiment qu'on sente le screech de quand c'est très propre. Si à la salive, il va y avoir un peu des composants qui vont faire glisser.
Alors qu'est-ce qui se passe si vous variez la vitesse avec laquelle votre doigt tourne autour du verre?
Eh bien nous allons... Ça change pas.
Ça change pas.
Alors, ce que ça change un petit peu, c'est la modulation du son. C'est-à-dire, on entend un peu wah 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 wah.
Mais c'est à peu près la même note.
C'est toujours la même note, mais éventuellement, ces modulations sont un peu changées.
Ça veut dire qu'en réalité, ce que l'on entend, c'est vraiment les caractéristiques du verre et pas de mon doigt ni de la vitesse de glissement. Et ce que l'on peut faire aussi, c'est de prendre de taper le verre sur le côté.
Avec une sorte de maillet.
Là, on a une. Oui, mais on utilise le manche. Alors, c'est un petit peu bizarre, mais on peut prendre un couvert, par exemple, quand on est à table. Ça marche très bien aussi. Vous voyez, c'est la même note.
C'est la même note selon qu'on frappe le verre,
oui.
Selon qu'on fait tourner le doigt sur le bord.
Alors, oui, en tant que physicien, ça nous intéresse énormément.
Parce que c'est une propriété du verre.
Oui, et ça nous dit autre chose. Quand on tape le verre. Vous voyez, je tape selon le diamètre du verre. On le tape, on dit radialement. Voilà. Alors que quand je fais glisser mon doigt sur le verre...
C'est circulaire.
Oui, c'est longitudinal. Voilà. Cela veut dire que si j'excite mon verre radialement ou longitudinalement, il produit la même note. Ça veut dire que les vibrations du verre, elles sont forcément à la fois radiales ou longitudinales, parce que sinon, j'aurais pas été capable de les exciter. En gros, là, c'est comme l'archet et la corde. C'est le même principe.
Le pizzicato et la note tenue.
Qu'est-ce que vous en déduisez? Que quand vous faites tourner le doigt autour du verre, par exemple, vous excitez les mêmes ondes que celles qui sont produites lorsque vous frappez le verre par le manche d'un couvert, par exemple.
Quand je fais ça, donc quand je fais glisser mon doigt, je fais le tour du diamètre, donc j'ai l'impression plutôt d'exciter l'aspect longitudinal de l'onde, et quand je fais ça, plutôt l'aspect radial. Le fait que j'obtienne la même note, c'est-à-dire qu'en réalité, quand ce verre vibre, eh bien, on a les deux à la fois.
En même temps.
Alors, pour savoir le mouvement, ça va être un petit peu après. Pour l'instant, on va dire déjà, on le fait vibrer. Et après, on peut voir ce qui se passe quand on rajoute de l'eau dans le verre.
Voilà. Déjà. Donc, la carafe d'eau, c'est même pas une carafe de vin. Et en plus, je vais même pas la boire, je vais juste m'en servir.
Si c'était du vin, ce serait pareil, non?
Oui.
Bon. Alors, prenons de l'eau.
Alors, on prend de l'eau. J'espère que j'en ai pas trop mis.
Vous replongez votre doigt dans le seau.
Donc, c'est le même verre, hein, vous êtes témoin.
Oui. Le même doigt.
Ah, c'est plus grave.
Donc, il y a de l'eau dans le verre et le son est plus grave.
Oui, le son est plus grave. Alors, ça nous surprend pas totalement parce qu'on se dit qu'on a rajouté une masse d'eau, que ce qui vibre, c'est sans doute toute la paroi du verre. Ça ne se limite pas juste à l'extrémité. Et donc, que quand ça se met à vibrer, ça met en mouvement cette masse d'eau. On a augmenté l'inertie. Et ça, c'est quelque chose qu'on connaît en physique.
Parce qu'on a remplacé de l'air par de l'eau.
Oui. Donc, c'est plus difficile à mettre en mouvement. Et donc, si c'est plus difficile à mettre en mouvement, ça a tendance à baisser la fréquence des vibrations.
Donc, le son est plus grave.
Le son est plus grave. Voilà.
Et si on met encore plus d'eau?
Et encore un peu plus d'eau.
Bon, je vais tout vider. Hein.
Donc là, il y a de l'eau quasiment aux deux tiers.
Allez.
Même.
Alors, j'espère que ça va sonner. Mais
deux tiers de la hauteur du verre.
Donc, je remouille.
Confiance, confiance.
Là, c'est nettement plus grave.
Bon, je vais à fond, je vais voir jusqu'où je peux aller. Hein.
Bon, attends, tu veux que je t'en rajoute?
Ouais, tu vas m'en rajouter. On découvre avec, parce que parfois j'ai l'impression que c'est plus difficile à faire vibrer.
Ah.
On fait encore la moitié,
allez.
Stop.
Allez, là, il y a de l'eau quasiment.
Alors là, est-ce qu'on arrive?
Car à bord.
Oui.
Ça marche?
Oui. Donc, vous voyez que là, éventuellement, on a le principe d'un instrument de musique original à base de verres. Il suffit d'avoir une collection de verres et de les remplir plus ou moins.
Voilà, mais sauf qu'une fois qu'on a rempli un verre, on ne peut pas changer la note. La note, elle est fixée. Donc, il y a une autre méthode.
Un verre plus ou moins rempli par note.
Voilà, donc il y a une autre méthode qui est de se dire que si je rajoutais de l'eau à l'extérieur du verre au lieu de la mettre à l'intérieur, peut-être bien qu'il pourrait se passer à peu près la même chose.
Ah, je comprends. C'est pour ça que vous avez apporté un seau.
Donc, c'est pour ça qu'on a un seau. Donc, on va faire l'expérience. Donc là, j'ai mon verre. Je le fais.
Là, Jean-Michel Courtis se lève, donc, fait vibrer son verre à l'extérieur du seau.
Et là, je commence à plonger le verre dans l'eau.
La note change.
Donc, en fait, je l'ai plongé, je vois que plus je le plonge, plus la note devient grave. Et ensuite, quand je le remonte, la note redevient aiguë.
Vous faites chanter.
Donc je le fais chanter. Et ça nous fait un peu des sons comme la scie musicale.
Et vous pourriez faire au clair de la lune ou...
Je suis pas sûr qu'il ait l'oreille musicale.
Ouais, non, là, non, non. Voilà, on fait ses effets.
Mais donc, je ne comprends pas pourquoi le fait de remplir le verre avec de l'eau, ou bien de tremper le verre dans l'eau, donc dans un cas c'est intérieur, dans l'autre cas c'est extérieur, produit le même effet.
Bah, en fait, ce qui se passe, c'est que on se dit que quand la paroi vibre, ça fait bouger l'eau qui est proche du verre. Bon, bah, ce que ça nous dit, c'est qu'en fait, l'eau elle va bouger, mais seulement sur une petite épaisseur proche de la surface. Donc en fait, que ce soit on va pas mettre en mouvement toute l'eau du verre. Donc en fait, si j'ai une toute petite épaisseur près de la surface, que cette épaisseur soit dedans ou dehors, ça aura le même effet.
Mais si je mets de l'eau dans le verre en même temps que je trempe le verre dans le seau,
attends, je vais le faire, vas-y.
Alors, tu vas verser dedans. Vas-y. Encore.
Donc c'est une opération à quatre mains.
Donc là maintenant,
Il y a de l'eau dans le verre.
On plonge le verre dans le seau.
Et là, j'obtiens quelque chose qui était plus grave que tout à l'heure. Allez, rajoute de l'eau. Et alors là, ce qui est fantastique, là, je ne l'avais jamais vu, c'est qu'en fait, comme mon verre, il est presque trempé totalement dans l'eau, eh bien, je vois des ondulations près de la surface du verre, en fait, aux endroits qui sont opposés à mon doigt.
Bon, ça, malheureusement, on ne peut pas l'entendre.
Bon, ça, on ne peut pas le voir. Mais on va en faire une vidéo, mais on voit vraiment...
La première découverte de physique faite dans un studio de France Culture.
Ah ouais, c'est exactement la même manip qu'avec le diapason qu'on a trempé dans l'eau, sauf que là, les vibrations de la paroi du verre, on les voit.
Magnifique, magnifique. Alors, vous êtes venus également, Jean-Michel Courty et Édouard Kirlik, avec un mug, avec une anse.
Oui, parce que jusqu'à maintenant, en fait, on vous dit que le verre vibre, mais on aimerait bien comprendre comment il vibre. On a l'hypothèse que ça peut vibrer selon le diamètre, quelque part, et selon le périmètre. Mais comment les deux peuvent coexister? Eh bien, on peut avancer quand même en étudiant ce mug.
Alors, on va faire une expérience. Donc, j'ai posé le mug devant moi et j'ai l'anse du mug. Si on dit que j'ai une horloge, j'ai l'anse du mug à midi. Voilà. Donc, maintenant, je vais frapper à midi. Vous entendez la note?
En mettant le maillet à l'intérieur.
Ouais, mais... À l'extérieur, à l'intérieur, ça fait la même chose.
Okay.
Voilà. Si je fais à 6 heures, voilà, 3 heures, 9 heures. Maintenant, je vais faire à 45 degrés. Alors, on va dire plutôt nord-ouest. D'accord? J'ai fait nord-sud-est-ouest. Là, je fais nord-est.
Très différent.
Ah. Écoutez, est, nord-est, sud-est, sud-ouest. Et j'ai fait les autres. Donc en fait, si je tape nord-sud-est-ouest, j'entends une note grave. Et si je tape, j'ai une note aiguë.
Oui, juste pour convaincre nos auditeurs, je fais la même chose avec le verre standard. Là, quel que soit l'endroit où je tape, on obtient bien la même note.
À mon avis, c'est parce que le verre n'a pas de anse.
Voilà. C'est exactement ça, c'est la position de la anse. Donc pour comprendre ce qui se passe, imaginez que devant moi j'ai un cerceau, voilà, que je prends avec une main à 3 heures et une main à 9 heures. Maintenant, je vais rapprocher mes deux mains. Donc ça veut dire que je vais obtenir une ellipse avec le petit axe qui est horizontal et le grand axe qui est vertical. Et j'ai le haut et le bas qui ont monté. Quand je tire, eh bien maintenant je vais avoir le grand axe horizontal et le petit axe vertical.
Cela veut dire que les points qui sont donc nord, ouest, est et sud vibrent selon le diamètre.
Maintenant, si je le prends et que je le tourne de 45 degrés, donc j'ai une main à nord-ouest et l'autre main à sud-est. Je fais le même mouvement, j'obtiens la même déformation, mais les axes de l'ellipse, ils sont à 45 degrés. Ça veut dire que nord-sud, c'est des endroits qui ne vibrent pas. Qui ne vibre pas selon le diamètre. Donc maintenant, ben si je fais nord-sud, je vais faire vibrer l'anse, alors que si je fais sud-est, je ne la fais pas vibrer. Et on a déjà dit tout à l'heure que quand on rajoutait de la masse, ça faisait un son plus grave. Donc la fréquence de l'anse, elle va être plus petite quand j'ai l'anse, parce que c'est plus lourd, et plus grande quand l'anse ne bouge pas.
Donc si je comprends bien, puisque le mug a une anse que n'a pas le verre, avec le verre on ne peut pas faire de la musique, c'est toujours la même note, alors que là,
voilà.
En choisissant l'endroit où vous tapez,
oui.
Vous produisez des notes différentes,
oui.
Et si vous êtes doué, ce dont je ne doute pas, vous faites carrément de la musique.
Ah, on pourrait, mais avec deux notes, alors s'il y a la samba, il y a la two-note samba de, voilà, qu'on pourrait faire, il y a la one-note samba, et puis il y a la two-note samba, mais je ne la connais pas. Voilà, donc on pourrait
alors,
faire...
Deux points, tu peux
lequel
taper.
De vous deux est le plus musicien?
Je crois que c'est moi.
C'est Édouard. C'est
mais
Édouard.
Mais je voulais non, pas non, m'en vanter,
Édouard,
mais
vous l'avez fait quand même.
Il joue à merveille de la flûte et du saxophone. Et moi, j'ai appris la clarinette, mais j'ai fait des exercices et des gammes pendant 7 ans. J'ai jamais réussi à faire de musique.
Alors, n'oublie pas de taper n'importe où.
Ah oui. Et là, on entend les deux notes en même temps.
Attendez, recommencez parce que c'est pas clair.
Une note pure. L'autre note pure. Et maintenant.
Les deux.
Les deux en même temps.
Alors, un point que Jean-Michel n'a pas dit, c'est-à-dire que quand il vous dit qu'effectivement, à 45 degrés, ça ne vibrait pas. Vibrait bas radialement, mais il se passe quelque chose. Ce que l'on ne voit pas, c'est qu'il y a en réalité, justement, des ondes de compression à ce niveau-là. C'est là où, effectivement, oui. Le long du périmètre...
Là, ça bouge comme ça.
Mais alors, ça va se comprimer, se détendre.
Je comprends bien. Maintenant, imaginons qu'on puisse enregistrer tous les sons que peut produire ce mug par les opérations que vous avez décrites. Est-ce qu'inversement, on peut en déduire la forme qu'il a et ses différents coefficients d'élasticité?
Alors en fait, il y a eu rien qu'avec une peau de tambour, il y a eu des travaux là-dessus sur est-ce qu'on peut entendre un tambour, etc. La réponse est non. On peut avoir des informations, mais en fait, on peut imaginer. Donc ça a été fait sur les tambours. Là, je peux pas vous dire sur les mugs, mais on sait que sur les tambours, en fait, on sait faire des surfaces où en découpant par exemple des triangles qu'on va mettre d'un endroit et un autre en autre endroit, et ben ça va pas changer les fréquences des modes qu'on va faire. Donc on peut avoir des informations. Mais en revanche, déduire la forme du mug et tout ça, c'est pas possible. En revanche, on en a retrouvé des objets musicaux avec des pierres qui sont taillées pour faire deux notes. C'est-à-dire
vous trouvez où c'était dans
les... préhistorique. On a ces pierres musicales. Selon l'endroit où on les tape, on peut faire deux notes différentes.
Vous voulez dire qu'ils avaient compris ce que vous avez expliqué tout à l'heure?
Alors c'était pas les vers, c'était pas machin, mais ils avaient remarqué effectivement que si on taillait comme il faut des objets, on pouvait faire des choses où en tapant à un endroit ou à un autre sélectivement, on pouvait avoir une note ou une autre.
Édouard Kerlik.
Oui, on peut quand même ajouter qu'en règle générale, parce que si le diamètre du verre grandit pour la même épaisseur, on va plutôt avoir des notes plus graves. Voilà. En revanche, ça dépend aussi crucialement de l'épaisseur du verre, qui peut beaucoup influencer la note obtenue. Ce qui veut dire que voilà, en réalité, si on n'a qu'une note, on peut peut-être éventuellement donner une relation entre le diamètre et l'épaisseur, mais on ne peut pas aller au-delà de toute façon.
Bien. Bon, tout ça est parfaitement clair. Qu'y a-t-il d'autre?
Oui, parce que là, en fait, on avait des expériences dans lesquelles l'objectif, c'était quand même de produire des sons, de produire des notes, de la musique. Mais on est des physiciens aussi. Et quand on est des physiciens, en fait, le son, ça peut aussi être un outil pour analyser des phénomènes physiques. Ce que je veux dire, c'est qu'on mesure des tailles, on prend des photos, etc. Et on peut décider aussi d'utiliser le son pour mesurer quelque chose sur un phénomène physique qu'on veut étudier.
Là, vous avez
c'est ce qu'on appelle un disque de l'air, mais en fait, c'est quelque chose que l'on peut réaliser juste avec une pièce de monnaie. Vous commencez par la faire tourner verticalement sur sa tranche, et puis vous la laissez évoluer et vous voyez ce qui se passe.
Alors, disque de l'air, c'est du nom du mathématicien Euler.
Oui, mais ça, le nom a été donné a posteriori.
Et donc, vous voyez, c'est un disque de métal.
Donc là, vous avez une grosse pièce de monnaie. Qui est très dense.
Ouais, 10 cm de diamètre, 1 cm d'épaisseur.
Qui est très dense.
Ouais.
Oui, qui est très massive.
C'est de l'acier.
Voilà. Et pour éviter que le disque aille n'importe où, on le met sur une surface qui est métallique et légèrement... concave, de telle sorte qu'elle ne s'échappe pas, qu'elle ait le bon goût de rester.
Donc c'est en gros la taille d'une assiette, c'est une sorte de miroir, et sur lequel vous allez poser
oui,
le disque.
Alors...
Là, c'est un peu...
Donc elle est verticale, voilà, sur une tranche, et voilà.
Allez, c'est parti. Et voilà.
Elle a mis plus d'une minute à tomber.
Tout à fait.
En fait, elle n'arrête pas de tomber.
Tout à fait. Et pas de moteur, hein. pas de moteur, pas d'aimant, pas de champ magnétique, rien du tout. Juste un disque d'acier.
Donc vous voyez qu'au départ, la pièce, elle est quasiment sur sa tranche, verticale. Dès qu'on la lance, elle s'incline et elle roule au niveau du point de contact. Et ce qui est incroyable, c'est, vous l'avez vu, c'est qu'elle elle devient
elle s'incline.
Dans les dernières étapes pratiquement à l'horizontale.
Mais elle vibre de plus en plus vite.
Oui, parce qu'elle reste, elle, voilà, le point de contact fait une espèce de mouvement comme ça, et jusqu'à ce qu'elle s'arrête ou elle se...
Mais si on le fait avec une pièce de monnaie, est-ce que... Parce que là, vous avez fait...
Bah, allons-y, faisons-le avec une pièce de monnaie, puisque on en a une. Allez, hop.
Là, vous avez tenu,
j'en ai une là, hop.
Le disque a tenu plus d'une minute, une minute.
Là, je fais la pièce de monnaie. Alors. Oui.
C'est un peu bref,
hein.
Ah, c'est mieux. C'est la même chose, mais en accéléré.
Oui. C'est la même chose en accéléré. Donc l'idée, c'est quand même, à un moment donné, ça s'arrête. Quand même, ça dure pas un temps infini. Donc c'est quand même qu'il y a de la dissipation. Il y a l'énergie, il y a des pertes d'énergie. Ouais. Bon, le truc, c'est que ces pertes d'énergie, elles sont très, 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 très faibles. On est habitué, si je le fais sur la table, voilà, hop. Voilà, ça dure...
Ah, c'est parce que le contact entre la pièce et, la surface est de très peu de surface.
Alors on va y aller progressivement, parce que... Donc là, l'idée, c'est d'essayer de se dire comment ça se fait que ça dure aussi longtemps. Et ce qu'on voit bien au début, c'est qu'en fait, le disque roule, d'accord ? Et on sait très bien que quand on a un objet, là j'ai le disque, si je le pousse sur la table et qu'il glisse, bon bah dans le glissement il s'arrête très vite, si je le fais rouler,
il va plus loin.
Et alors c'est ça qui est magique, parce que en fait, ça continue de frotter. Vous voyez, le disque, si je le pousse en le tenant, je vois bien que ça frotte. Le roulement, c'est quelque chose qui permet d'avancer et de bouger alors qu'on a encore des frottements. Sauf que, à l'endroit du contact, ça ne glisse pas. Donc, en fait, on va se déplacer d'un endroit à l'autre en pivotant autour d'une chose, parce que ce qui dissipe, c'est le frottement plus le glissement. Si je veux pas dissiper, soit je supprime le frottement et je vais mettre de la lubrification, des choses comme ça, mais je suis pas obligé. En fait, si je supprime le glissement, je peux très bien rouler, et ça, là encore, les civilisations passées l'ont compris, en utilisant des rouleaux pour transporter les pierres, etc. Ils suppriment pas le frottement. Donc là, je vais avoir ce roulement qui fait que j'ai pas de dissipation, et la dissipation que je vais avoir, c'est ce qu'on appelle le frottement de roulement, qui est en fait une dissipation qui est associée aux déformations du matériau.
Donc vous êtes en train de me dire que le disque qu'on voit s'affaisser de plus en plus, à la même place, quasiment, en fait, il roule.
Et voilà, il roule en rond, en fait.
Il roule sur place.
Il roule sur place, parce que quand on regarde, en fait, il y a quand même le point de contact qui fait des tours autour du diamètre.
Oui, mais au niveau du point de contact, c'est vrai que là, on ne le voit pas forcément, ça ne bouge pas. Le point de contact du disque sur la surface est immobile. Il est immobile, il n'y a pas de travail, entre guillemets, d'effrottement, ça ne dissipe pas d'énergie.
Et pourquoi ce disque s'appelle-t-il le disque de l'air ?
Alors en fait, parce que c'est au niveau des équations mathématiques qui le régissent, où en fait il y a Euler qui intervient dedans, je crois que c'est Steve Moffat, le mathématicien,
qui a donné ça, il n'est pas conscient.
Et en fait les mathématiciens, ils adorent ce truc-là, parce qu'en fait c'est une divergence en temps fini. Voilà.
Mais c'est aussi un truc, moi j'en ai à la maison, c'est calmant, ça apaise.
Ah, c'est pas moi, ça a plutôt tendance à mettre de la tension, parce qu'on dit ça va s'arrêter.
Ouais, la fin est quand même difficile.
C'est stressant, hein.
Oui, c'est...
Ça monte en fréquence.
Oui, c'est vrai, il y a un côté, il y a une tension qui monte un peu
Quand on a des étudiants ou dans des formations, et qu'on dit rien, moi, je n'ai jamais vu une séance dans laquelle tous les gens restent silencieux jusqu'au bout. Au bout de 30 secondes, il y en a un qui craque.
Qui fait un commentaire.
Et qui dit, il n'y a pas un aimant, il n'y a pas un moteur, comment ça va s'arrêter? Je veux dire, la tension est tellement grande que, je veux dire, j'ai jamais vu ça qui s'arrête dans le silence. Donc, en fait, le point, c'est que quand ça roule, quand on roule sur une surface, en fait, l'objet qui roule et la surface vont se déformer. Et en fait, c'est dans cette déformation qu'on va avoir les pertes d'énergie.
Donc la perte d'énergie vient simplement du fait que le support se déforme.
Exactement.
Et le disque aussi un peu.
Oui.
Alors qu'il a l'air solide de chez solide.
Justement, c'est pour ça. C'est en prenant un disque très rigide et un support très rigide qu'on arrive à faire quelque chose qui dure longtemps. Et par rapport à la pièce de monnaie, eh ben, si on prend quelque chose qui est très massif et très épais, on va avoir une énergie cinétique stockée qui va être importante et qui donc va mettre du temps à dissiper.
Alors messieurs, vous m'avez apporté deux balles noires.
Oui, alors en anglais... on les appelle happy ball et not happy ball.
Il y en a une qui est heureuse et l'autre qui l'est
oui,
pas.
Oui, exactement. Donc
elles ont la même forme. Elles ont la taille à peu près, elles ont un diamètre de 2 cm, 3 cm.
Oui.
Elles sont noires. Elles ont la même masse, d'après ce que je peux mesurer. Et si j'en laisse tomber une d'une certaine hauteur, alors, ben, elle rebondit pas. Enfin, elle rebondit une fois, mais de façon très, très peu ample. Et puis si je prends l'autre, je la laisse tomber de la même hauteur. Et elle rebondit un certain nombre de fois.
Donc on l'entend
alors
là.
Alors qu'elles sont pareilles en apparence.
Oui, elles
Est-ce que je dois en déduire pareil. Que je ne dois jamais me fier aux apparences?
Non, peut-être que vous avez choisi la balle heureuse. Hein, ou...
Non, j'ai commencé par la malheureuse. Enfin, celle qui est heureuse, c'est laquelle? C'est celle qui rebondit.
Bah, en fait, je sais pas. D'habitude, on les marque parce que justement, on s'en mêle les pinceaux.
Mais celle qu'on appelle heureuse, c'est celle qui rebondit.
Oui, c'est celle qui rebondit. Oui.
Bon, bah, j'ai commencé par la malheureuse.
Vous avez commencé par la malheureuse. Oui, alors justement, ça illustre ce que vient de dire Jean-Michel sur la dissipation d'énergie lorsqu'il y a des déformations. Donc, en gros, ce sont deux balles en caoutchouc. Quand vous appuyez dessus, vous avez l'impression...
Elles sont à peu près pareilles.
Elles sont à peu près pareilles.
À peu près, mais on sent une petite différence.
Alors, qu'est-ce que vous ressentez, justement?
Il y en a une qui est un peu plus molle, entre guillemets, que l'autre.
Alors, laquelle est la plus molle?
Celle qui rebondit.
D'accord. Voilà, donc vous voyez que c'est pas tout à fait évident, que c'est la plus molle qui rebondisse plus que la plus dure.
Ça me paraît plutôt normal, moi.
Là, en fait, dans des trucs comme ça, on peut justifier les deux. Hein.
Ouais, parce que les ballons mous, ils rebondissent quand même. On sait qu'il faut bien gonfler le ballon pour que ça rebondisse.
Oui, mais les ballons de foot, ils rebondissent, non? Ils sont bien gonflés, ils rebondissent.
Oui, plus ils sont gonflés, plus ils sont durs, plus ils rebondissent.
Ouais. Un ballon de basket, c'est notable. Hein. Quand vous vraiment bien
quand
tendu.
Ils sont mous, ouais, voilà.
Donc, vous avez raison, il y a une toute petite sensation de différence d'élasticité, mais pas grand-chose. Alors, c'est du caoutchouc, c'est-à-dire, essentiellement, ce sont deux balles qui sont faites de molécules polymères, hein, donc des très, très, très grandes molécules. Et il se trouve qu'elles sont quand même pas tout à fait identiques, qui fait que dans une, lorsqu'elles se déforment, elles arrivent à dissiper l'énergie cinétique en chaleur. Entre guillemets.
Donc vous voulez dire celle qui est unhappy,
oui.
La malheureuse, elle chauffe la table direct.
Et elle se chauffe elle.
Oui.
Après, comment la répartition entre les deux, je ne sais pas. Mais en gros, elle transforme l'énergie cinétique de la balle juste
active
avant
pendant
le jeu,
la chute.
Oui, en chaleur. Donc si vous le faites un très 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 grand nombre de fois, eh bien cette balle va chauffer comme, d'après ce que me dit Jean-Michel,
allez, ben le
parce que oui, j'ai pas pratiqué le squash. Soit dit, c'est une balle où, à force de frapper sur les murs...
Ah oui?
Oui, dans les balles de squash, les cinq premières minutes, en fait, on prend les balles et on tape comme un malade contre le mur, de manière à les faire monter en température et avoir l'élasticité qui devient celle qu'elle doit être. Et donc, mais ça veut dire que pour faire chauffer une balle de squash qui est plus petite que celle-là, il faut taper comme un malade pendant
donc
5
minutes.
Donc
ça vous échauffe, vous aussi?
Ah oui, ça c'est clair.
Et l'autre? Qui rebondit.
Eh bien, l'autre, il se trouve que la dissipation est
plus lente,
est beaucoup plus mesurée, et ce qui permet beaucoup plus de rebond. Et en fait, la différence, la formulation chimique entre les deux, elle n'est pas incroyablement spectaculaire. Hein. C'est que vous avez juste rajouté un groupe chimique quelque part qui va faire que, eh bien, dans le mouvement de cette chaîne polymère au moment de l'impact, dans un cas... Je ne sais comment, ça va se cogner, ça va se mettre à vibrer. Donc, vous transformez de l'énergie de façon ultime en chaleur, alors que dans l'autre, eh bien, ça met un peu plus de temps.
Donc, il y a des cas où c'est la chimie qui permet de comprendre la physique.
Oui. Là, on est obligé de s'incliner parce que ce qu'on appelle le coefficient de restitution hein, est très élevé dans l'une, très basse dans l'autre. Ce qui est drôle, me semble-t-il, c'est que si on baisse la température, donc si on les mettait les deux au congélateur, eh bien la balle heureuse devient malheureuse et la balle malheureuse devient heureuse.
C'est la vie.
Oui.
Et on ne sait pas trop pourquoi. En revanche,
on ne comprend pas pourquoi le froid inverse les rôles.
Plus ou moins, mais...
Après, on va dire des bêtises parce
voilà.
Que on va dire oui.
Non, mais c'est de la
très probablement que ça doit geler certains degrés de vibration, de rotation.
Mais en revanche, les deux matériaux ont leurs utilités. C'est-à-dire que quand on veut, dans certaines situations, on veut avoir des contacts où on garde l'énergie pour la redonner. Par exemple, les coureurs sur les pistes de 100 mètres, etc. Ce qu'ils veulent, c'est que quand ils ont comprimé leur semelle de chaussure, l'énergie soit redonnée pour repartir. Donc là, il va falloir prendre un caoutchouc qui redonne tout et qui dissipe pas. En revanche, si on veut supprimer des vibrations amortir, il faut prendre celui qui amortit. Et donc en particulier, si vous avez une chaîne hi-fi avec une platine, etc., vous voulez pas qu'il y ait des vibrations qui arrivent sur la platine de 33 tours. Et donc vous allez mettre des supports à votre platine dans le matériau qui absorbe. Donc les deux ont leur utilité.
Ce qui est amusant, mais là, ça serait un peu délicat à justifier totalement, mais c'est de montrer à quel point il faut beaucoup de travail mécanique pour chauffer. C'est-à-dire, cet échauffement de balle, en fait, en un rebond, on ne voit rien, il faudrait la faire rebondir des centaines de fois pour gagner un degré.
C'est pas très rentable.
Non, effectivement, on est toujours très très déçu. Quand on voit la quantité de calories dans une portion de frites, on se dit qu'on doit vraiment beaucoup grimper en altitude pour les dépenser.
Et pour relier avec l'expérience du disque de l'air, on peut aussi mettre les deux balles sur un plan incliné. Et en fait, on s'aperçoit que c'est la balle qui rebondit qui arrive le premier en bas.
Ah, elle glisse, enfin, elle roule pas à la même vitesse?
Eh bien, en fait, comme on a dit que le frottement de roulement, il est dû à la déformation de la balle, eh bien, en fait, les deux balles, elles vont se déformer en roulant, sauf qu'il y en a une qui se déforme sans perdre d'énergie et l'autre qui se déforme en perdant de l'énergie. Eh bien, donc, ça, on peut le voir sur le rebond, mais on peut aussi le voir en les faisant rouler.
Bon, on peut pas incliner la table.
On peut pas, mais ça, les gens le savent. Par exemple, quand on est en vélo, selon qu'on gonfle plus ou moins les pneus, quand ils sont bien gonflés, on va moins perdre de... On sent qu'on roule beaucoup mieux, parce que ça se déforme peu, que c'est bien élastique. Quand les pneus sont peu gonflés, eh ben on sent bien que là, on va
avoir plus de mal. Mais quand ils sont très gonflés, on est un peu secoué, quoi.
Alors, sur les pavés, etc. C'est le choix.
Vous avez aussi un mug, là. Vous avez plusieurs mugs. Vas-y.
Donc, je vais vous reprendre une des balles.
Alors.
Bon, non, on reprend les deux.
On reprend les deux.
L'heureuse ou la malheureuse ?
Les deux.
Donc, on vient de voir que malgré tout, on n'a pas énormément de rebonds. Même dans la balle happy, je vais les compter. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Voilà, on a une dizaine de rebonds. Maintenant, je donne les balles à Jean-Michel qui nous a préparé un petit dispositif.
Alors, sur le mug, j'ai tendu un pot de ballon de baudruche. Voilà. Et ensuite, vous regardez, j'ai un petit peu appuyé de manière à ce que la surface elle soit un petit peu incurvée au milieu, comme le plateau. Et puis, je vais prendre d'abord la balle qui rebondit. Et je la laisse... Là, je ne la lâche pas à 5 cm
au-dessus de la membrane. Elle rebondit très bien. Elle n'arrête pas de rebondir. En tout cas, elle rebondit beaucoup plus que si vous l'aviez fait sur la table.
C'est considérable. Et ensuite, maintenant, je vais faire la même chose avec la balle qui ne rebondit pas.
Et là, elle rebondit.
Et là, elle rebondit. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ? En fait, ce qui se passe ici, c'est que la déformation lors du rebond, ce n'est pas une déformation de la balle, c'est une déformation de la peau du ballon. Et cette peau de ballon, elle est élastique, elle perd pas d'énergie, et en plus, il y a très très peu de matière, très peu de masse. Donc ça veut dire que même s'il y a de la dissipation, t'as très peu de dissipation à chaque rebond.
Merci messieurs, c'était passionnant.
Oui,
cette leçon sur leçon.
Vous avez vu qu'on a transformé une balle malheureuse en balle heureuse grâce à ce petit dispositif.
Vous êtes des... Comment est-ce qu'on pourrait dire ? Vous faites des miracles. Je vous remercie d'être venu avec autant de matériel dans la conversation scientifique. Vous allez donner des spectacles, conférences à différentes dates qu'on peut trouver, j'imagine, ici ou là. Je recommande la lecture de votre chronique dans Pour la science, qui s'intitule « Idées de physique ». C'était donc la conversation scientifique par Étienne Klein, avec la collaboration de Thierry Beauchamp, à la réalisation et à la mise en onde, Souad Boukorsa.